Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc ce sera le message numéro 2 de la série sur l'autorité du croyant. Et je vais lui donner le titre « L'autorité s'exerce aux portes ». On va étudier ce matin, on va prendre le temps de voir ce que la parole de Dieu nous dit sur l'exercice de l'autorité. Dans le premier message, dont je ne vais pas faire un résumé, parce que ça serait beaucoup trop long et inutile, nous avons vu quel était le siège de l'autorité. Et ça, je vais juste le rappeler. Quel est le siège de l'autorité? C'est le trône de Dieu. Si on n'a pas compris ça, après on fait tout faux. On croit qu'on va pouvoir être des dieux nous-mêmes. Mais ça, ce n'est pas vrai. Alors, il y a un verset de la parole de Dieu dans Romains 13 qui nous explique quelque chose de très important que nous avons besoin de savoir sur l'autorité. Et Romains 13, verset 1, nous dit la chose suivante. Que toute personne, toute ça veut dire toute, il n'y a personne qui est exclue, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc dans le premier message, nous avions vu que ce que c'était la souveraineté de Dieu, pour éviter les deux extrêmes. Les deux extrêmes, c'est d'un côté Dieu décide tout, on ne peut rien y faire, c'est le fatalisme. De l'autre côté, on a l'homme qui devient comme un petit Dieu, comme si tout dépendait de nous. Et Romains 13 nous explique bien, nous rappelle que l'autorité, elle vient de Dieu. Et si nous pouvons l'exercer, c'est uniquement pour une seule raison, c'est parce qu'elle nous a été déléguée. Si elle n'est pas déléguée, nous n'avons pas d'autorité en nous-mêmes. Ou alors nous sommes déjà dans une situation de nouveau de rébellion, de vouloir nous dresser contre Dieu. Donc si le siège de l'autorité, c'est le trône de Dieu, quiconque veut égaler cette position, voudrait contester l'autorité de Dieu, il s'identifie à Satan lui-même. Et dans Ésaïe 14, verset 13, c'est quelqu'un qui s'adresse, le prophète s'adresse au diable et lui dit, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Les étoiles de Dieu sont des fois, c'est une symbolique pour parler du monde, des anges, des êtres célestes. Donc il voulait être le plus grand de tous. « Et je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Ça, c'était sa suprême tentation, rébellion, qui a mal fini pour lui, n'est-ce pas? Et qui a quand même entraîné beaucoup de choses dans l'univers dans lequel nous vivons maintenant. Et voilà que le Seigneur, on a vu, il veut rétablir quelque chose sur terre, il veut que le royaume de Dieu puisse être établi, et nous avons quelque chose à faire. Matthieu 28 nous a dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, Jésus a dit, et maintenant allez. » Donc l'autorité doit s'exercer ici sur terre. Et comment va-t-elle s'exercer? À quel endroit ou comment est-ce que ça va se faire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'autorité, d'abord je dis, l'autorité s'exerce aux portes. Et nous allons étudier ensemble et voir ce que le Seigneur nous dit sur les portes. Qu'est-ce que c'est une porte? Comment ça marche? On ne va pas étudier une porte physique et naturelle, la planche avec les gonds, tout ça, mais de voir quelle est la signification d'une porte. Alors, dans la Bible, la porte, c'est le lieu du pouvoir. Proverbe 31-23 parle de la femme vertueuse. « Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » Ça nous parle de cette façon qu'ils avaient dans les temps bibliques d'avoir un endroit où on se réunissait. On peut dire que c'était l'endroit où s'exerçait le pouvoir. La porte, c'était le lieu où on exerçait la justice. Dans Zacharie, par exemple, chapitre 8, verset 16, c'est des versets que je cite, qu'on n'a pas le temps maintenant d'aller chaque fois le chercher, mais vous pouvez noter. « Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité à chacun, chacun à son prochain, jugez dans vos portes selon la vérité en vue de la paix. Donc, lieu de pouvoir, lieu de justice, c'était un endroit où se traitaient les affaires publiques. On pourrait prendre l'illustration de Ruth, dans le livre de Ruth. On se rappelle peut-être comment ça s'est fait, que Ruth ait pu être rachetée par Boaz. Et donc il nous est dit, déjà Boaz dit à Ruth au chapitre 3 verset 11, « Maintenant ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Donc constamment on a cette expression de la porte qui représente alors toutes les personnes importantes, les sages, les anciens, tout ce qui représentait des gens qui avaient de l'autorité ou du pouvoir. Et donc Boaz, il monte à la porte, il s'y arrête, c'est pas n'importe quelle porte, c'est là où ça se passait, les affaires se traitaient. Et voici celui qui avait le droit de rachat, dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Il s'approcha, il s'arrêta. Au verset 10, et il explique, voilà, il y a cette femme, Ruth, et j'aimerais la prendre pour épouse. Et vous êtes tous témoins aujourd'hui, et tout le peuple qui était à la porte, les anciens disent, nous sommes témoins. Et c'est de cette façon que les affaires se traitaient. Et donc, on pourrait passer beaucoup de temps à étudier toutes ces choses, l'Ancien Testament, de voir comment ça marchait, mais d'une certaine façon, pour nous, c'est à la fois une illustration et c'est aussi un côté un peu historique qui n'est pas l'essentiel de ce que nous voulons voir ce matin. Mais de voir déjà que si l'autorité s'exerçait aux portes dans ces temps-là, il y a aussi une autorité qui s'exerce pour nous. Et donc, par exemple, nous avons nos propres portes. Notre personne même, nous avons une porte. On peut dire que nous avons la porte de notre cœur. Ça vous rappelle quelque chose dans Apocalypse 3:20, quand il est dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». C'est vraiment une belle illustration de voir que Jésus se tient à la porte de notre cœur. Et nous avons l'autorité sur la porte. Et ça, c'est extraordinaire de réaliser. Et ça remet les choses à leur juste place. De voir que Dieu Tout-Puissant, d'après certains, bon, il sauve qui il veut et celui qui lui déplaît est perdu, etc. Mais non, nous voyons que, au contraire, Dieu s'approche, il frappe, il essaye d'entrer, il essaye de communiquer et c'est à nous de répondre. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, nous avons cette capacité d'ouvrir la porte, c'est-à-dire la communication avec Jésus. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est nous qui choisissons. De la même façon que si vous avez une maison, vous avez une porte, c'est vous qui choisissez qui entre et qui sort. Vous n'êtes pas obligé de laisser rentrer quiconque. D'accord ? C'est important. Et aussi de voir pour vous-même, pensez pas seulement, on peut penser au côté naturel pour l'illustration, mais ce qui est plus important, c'est pour vous-même. Qu'est-ce que vous laissez entrer ? Est-ce que vous veillez sur vos portes, sur vos entrées et vos sorties ? Alors, par exemple, l'Ecclésiaste donne cette illustration, il dit, dans l'âge, dans la vieillesse, les portes, il parle des oreilles, il dit les portes, les battants se referment, c'est-à-dire que les gens, quand ils vieillissent dans le naturel, souvent il y a un début de surdité qui commence et puis on entend moins bien. Mais ça m'a fait penser à ce que Jésus avait dit dans Marc chapitre 4 et verset 24. Il avait dit, prenez garde à ce que vous entendez. Vos oreilles sont vos portes. Par là entre les choses que vous voulez laisser rentrer. Parce que des fois on dit ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Vous pouvez décider pour certaines choses, je n'y prête pas attention, vous l'avez entendu, mais vous ne le laissez pas venir en vous. Ou alors vous l'entendez et vous l'acceptez. Des fois, comment ça marche le commérage, hein? On entend une rumeur, on la dit, on l'amplifie, on la déforme, des choses comme ça. Mais nous pouvons décider qu'est-ce qu'on va en faire. Des fois, on ne peut pas s'empêcher d'entendre, mais on peut empêcher la chose de commencer à s'installer en nous. Donc, prenez garde, il a dit, à ce que vous entendez. Et ça nous rappelle aussi le verset de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. À l'inverse, on peut dire aussi, si vous ne gardez pas vos portes, la peur vient aussi de ce qu'on entend. Si quelqu'un dit des paroles effrayantes, peut-être il n'y a aucune raison dans le naturel pour laquelle vous deviez être effrayé ou angoissé. Mais si vous avez laissé entrer à ce moment-là, vous avez une responsabilité. Responsabilité, c'est pas pour nous écraser, pour dire nous avons de l'autorité sur ces portes. Ce sont les premières portes où nous devons exercer de l'autorité. Comment exercer de l'autorité sur le monde entier, sur juger les anges et faire plein de choses, si on n'est même pas maître de ce qui entre en nous et si on n'est pas maître de ce qui sort de nous? Dans 2 Chroniques 23, 19, j'ai trouvé intéressant cette illustration de ce verset. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel afin qu'il n'entrât aucune personne souillée de quelque manière que ce fût. Le temple devait être le lieu de la sainteté où vraiment l'Esprit de Dieu pourrait habiter. Et nous, ne sommes-nous pas le temple du Saint-Esprit ? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement veiller à ce que des portiers soient en place ? Alors chacun verra comment il va pouvoir développer ça, de sorte que certaines choses ne puissent pas venir en nous. Première parole de Dieu à quelqu'un qui était dans une situation bien difficile, c'était Caïn, comme il commençait à nourrir des mauvais sentiments à l'égard de son frère. Le Seigneur lui dit dans Genèse 4:7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. » Le péché se couche à la porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Ça veut dire, le péché, il est peut-être là, devant. Peut-être, effectivement, tu l'as sous tes yeux ou au niveau des oreilles, mais tu peux choisir de ne pas le laisser entrer. C'est une possibilité. De la même façon qu'il y a aussi une parole pour la bouche. La bouche peut être une autre porte de notre être. Dans le psaume 141, celui-là, je vais le chercher, le psaume 141, verset 3, j'ai trouvé la chose suivante. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Donc ce n'est pas seulement ce qui entre, mais aussi ce qui sort. C'est ce que Jésus disait. Il disait, ce n'est pas ce qui entre en l'homme, il disait dans le naturel, ce que vous mangez qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort, des mauvaises choses qui peuvent en sortir. Et donc, il y a aussi une façon dont Dieu nous permet d'exercer notre autorité. Votre monde... Vous avez l'autorité sur votre monde, votre foyer, votre personne et par rapport à l'extérieur. On peut aussi penser à ces paroles de la loi dans Deutéronome 6, 9. Il est dit, cette parole, cette loi, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Pourquoi pas seulement pour se rappeler, mais moi je crois qu'il y avait une signification spirituelle, il y avait quelque chose de fort. Des fois, quand vous entrez dans la maison de certains chrétiens, vous avez des versets affichés ou des choses comme ça. Et des fois, c'est aussi un peu triste de réaliser qu'on met Christ est le chef de ce foyer. Et dans ce foyer, il n'y a que disputes et confusions et querelles. Alors, mais au moins, l'intention est là, on peut dire. Mais il est important de mettre ces choses... littéralement, pas seulement comme symbolique ou comme une espèce de superstition. Il dit, tu écriras ces paroles sur tes portes. Pensez-y. Apprenez à protéger votre monde, ce que vous aimez, votre foyer. Il nous est dit aussi, ça c'est aussi par rapport à l'Ancien Testament, dans Exode 12, 23, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Quand on applique le sang, littéralement, le sang de Jésus est puissant pour nous garder aux portes. Je ne veux pas seulement vous donner des instructions en disant « il faut garder vos portes, il faut que vous ayez de la discipline, il faut que vous fassiez attention à ce qui entre dans vos oreilles ». Ce n'est pas ça le message. Le message, c'est vous avez autorité. L'autorité ici, elle est dans le sang. Si le sang est sur les portes, l'Éternel passera dans le sens que le destructeur, il ne permettrait pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. C'est quand même une parole de Dieu importante ici. Donc non seulement protéger, mais aussi, on peut dire, la porte, c'est aussi le symbole de la protection de vous-même, de votre intimité. Jésus avait dit, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et là, tu auras un temps avec ton Père Céleste, qui ne regarde personne d'autre. Il peut y avoir d'autres moments d'intimité. Nous, on ferme les salles de bain quand vous êtes sous votre douche. Les parents doivent fermer leur chambre à coucher, des fois, pour être seuls, pour être dans l'intimité. Et non seulement l'intimité, mais aussi apprenez à protéger votre monde et le miracle de Dieu qui est en train de se faire. J'ai vu, et ça m'a un peu impressionné, j'ai vu que le prophète avait donné instruction à la femme. Vous savez l'histoire de la femme qui était endettée et lui a dit « Prends des vases et puis l'huile ne cessera pas de couler. » Elle avait rassemblé beaucoup de vases et puis il a dit « Maintenant ferme la porte. » Et je me suis dit « Pourquoi cette précision « ferme la porte » ?» Avant que le miracle n'ait lieu, il fallait que la porte soit fermée. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que les voisins ne devaient pas en profiter ou... C'était quelque chose qui se passait entre elle et Dieu suite à la parole du prophète. Ce n'était pas pour n'importe qui. Et des fois, en ne fermant pas la porte, en parlant à tout le monde, « Moi, je crois que Dieu va me guérir » ou ceci, cela, vous allez ouvrir justement la porte pour que plein de personnes vont dire « Mais non, tu peux pas y croire, tu peux pas attendre ça, et Dieu va pas le faire, etc. » Donc, apprenez à protéger votre miracle. Vous avez l'autorité sur la porte. On utilise aussi souvent ce verset, il dit « Ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Gardez ce qui est précieux pour vous. Vous avez l'autorité sur cela. » Donc, on pourrait passer beaucoup de temps encore, on pourrait étudier beaucoup de versets, mais je voulais simplement établir ça. L'autorité s'exerce aux portes. Maintenant, voyons un deuxième aspect. Il existe une porte, et c'est la porte du ciel. C'est une bonne chose, ça. Et nous avons une révélation du ciel. Nous avons des paroles de Jésus, parce que lui, il était au ciel. Des fois, des gens disent, oui, mais on ne sait pas ce qu'il y a après, jamais personne n'a été de l'autre côté. Nous connaissons quelqu'un qui vient de l'autre côté, qui a été ici et qui est retourné. Il est retourné, mais il continue de communiquer avec nous. Quelqu'un a dit avec humour, une fois un prédicateur, il a dit à quelqu'un qui contestait le fait « Est-ce qu'on peut entendre Dieu? Est-ce qu'il est réel ?» Mais je viens de lui parler il y a 5 minutes. Comme quelqu'un qu'on vient de voir à l'instant. Et donc, Jacob a eu dans Genèse 28-17 une expérience extraordinaire que nous n'avons pas souvent, mais nous avons la réalité de ça, même si nous ne le voyons pas. Mais lui, il a vu quelque chose. Dans 28-17... On va prendre ce passage. Moi, je voudrais que vous soyez vraiment enthousiasmés d'entendre Genèse 28, 17. Des fois, on a l'impression, nous, on est là sur terre, Dieu, il est là-haut, très loin. Jacob, réalisez bien, n'était pas né de nouveau, n'avait pas la Bible comme nous, il n'avait pas entendu des dizaines ou centaines de messages, il n'avait pas le Saint-Esprit comme nous avons, mais il a vécu quelque chose. Il a été à un endroit, il nous est dit, l'Éternel, au verset 16, Jacob s'est éveillé, il avait un rêve. Certainement l'Éternel était en ce lieu, moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit « Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Il avait trouvé la porte du ciel, vous imaginez ? La porte du ciel, il y a des gens qui cherchent ça. Ah, où est-ce qu'elle est ? Lui, il avait trouvé la porte des cieux. J'étais impressionné de voir dernièrement, ça nous servira d'illustration, de faire rien qu'un petit inventaire du nombre de fictions qui sont faites actuellement. sur les portes des cieux, les portes des étoiles, les portes du temps, et les gens cherchent. Et moi, ça me parle de Dieu. Ça me parle du fait que l'être humain cherche naturellement à s'élever d'une condition où il ne serait qu'animal. On est plus que ça. Chaque être humain devrait le sentir en lui. Il doit y avoir une communication avec ce qui est céleste. La porte, elle doit être quelque part. Alors, même les gens qui sont peut-être pas du tout chrétiens, mais ils cherchent des histoires, ils rêvent, ils imaginent qu'il puisse y avoir des communications dans d'autres dimensions, dans d'autres toutes sortes de choses. Je suis impressionné par le nombre de fictions qui existent sur ce thème. Mais qu'est-ce que ça nous prouve à nous? Qu'il y a une réalité. Il y a une réalité, et ici Jacob disait, c'est ici la porte des cieux. Il a vu la porte des cieux. Il a vu la communication. Quelle est la nature de son songe? C'est au verset 12. Une échelle était appuyée sur la terre, son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. N'est-ce pas formidable de réaliser qu'au verset 13, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel. Il se présente, je suis Dieu. Et il y a une communication. Il y a une communication entre le ciel et la terre. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament aussi, il y a des gens qui, peut-être ils connaissaient cette histoire de Jacob, mais eux n'avaient pas fait l'expérience. Alors dans quelle situation ils étaient? Ils se voyaient juste dans cette situation, le ciel est fermé. Nous, on ne voit pas la porte des cieux. On ne la voit pas, Jacob l'avait vue, mais pour nous, elle est où? Alors l'idée, c'était, Seigneur, si seulement tu pouvais déchirer les cieux et descendre. Les prophètes priaient dans leurs écrits et disaient, Seigneur, mais déchire les cieux et viens. Et lorsque le Seigneur Jésus a dit, je vois maintenant les cieux ouverts, Jean 2, il a fait directement référence à Jacob. Ils ont très bien compris ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, moi je vois clairement la porte des cieux. Mais pour eux, c'était insupportable. Parce qu'ils avaient déjà établi un tel système religieux que pour eux, c'était impensable de dire, non seulement il voit la porte, et on va voir dans un instant, il va plus loin et dit, je suis moi-même la porte. Et ça, c'était quand même un peu trop pour eux. Dans Jean 10, nous voyons tout cet enseignement de Jésus, très intéressant, sur la porte. Jean 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Vous avez lu avec moi? Mais au verset 6, il nous est dit que lorsque Jésus a fait cette parabole, personne n'a rien compris. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors si vous avez compris, vous êtes un peu plus loin que les gens du temps de Jésus. Vous avez peut-être reçu de la part de Dieu une révélation. Mais lorsqu'il leur parlait de ça, il nous a dit, personne n'a rien compris. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Verset 7. Alors il leur dit encore. Il s'est dit, bon, ils n'ont pas compris. Il faut que je leur explique encore une fois, mais d'une autre manière. Parce que les mauvais pédagogues, nous avons peut-être tous eu dans notre scolarité des professeurs, il pouvait vous énoncer quelque chose, vous disiez « j'ai pas compris » et il vous redisait la même chose. Des fois, ça aide, parce que vous n'avez pas bien compris la première fois, mais la deuxième fois, vous avez compris. Mais des fois, il y en a, ils vous disent la même chose deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, mais ils disent toujours de la même façon, alors ça ne vous aide pas. Et ici, Jésus nous a dit, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il leur a expliqué encore une fois, mais d'une autre façon. Parce que nous, quand on raisonne dans le naturel, on dit, attends, mais tu es quoi maintenant? Tu es le berger ou tu es la porte? Parce que nous, on raisonne, on se dit, ne peux pas à la fois être la porte et le berger. Soit tu es l'un ou l'autre. Mais il dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Il ne dit pas, j'ai changé de nature. D'abord j'étais un berger, puis je suis devenu une porte. Maintenant je suis de nouveau le bon berger. Il explique simplement les mêmes vérités spirituelles de plusieurs façons différentes. Nous savons qu'il est le bon berger, mais nous savons aussi par ce passage qu'il est la porte. Il est le seul passage possible. Et il a dit ailleurs, nous connaissons peut-être certainement très bien dans les évangiles, il dit « Étroite est la porte et resserrés sont les chemins. » Donc, il est à la fois le chemin, la vérité, la vie, il est la porte et il est le bon berger. Il est tout ça à la fois. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que dans un premier temps, à sa façon, il était en train d'enseigner les gens d'après un concept qu'ils pouvaient facilement comprendre. Il leur expliquait comment ça se passait. Et tout le monde pourrait lui dire, oui, c'est comme ça qu'ils font les bergers. Ils vont, ils ouvrent la porte, ils appellent les brebis, ils les suivent. Mais ils ne voyaient pas d'application spirituelle. Alors il a été plus précis, il a dit, mais je suis la porte. Vous comprenez ça? Je suis la porte. Vous pouvez passer par moi et je suis la porte des cieux. Alors si vous mettez bout à bout tout ce que Jésus a dit de lui, vous pouvez commencer à avoir une idée claire que la porte des cieux, elle ne va pas se trouver d'une façon mystérieuse, avec une découverte scientifique, on ne va pas trouver quelque part des objets ou des édifices ou de je ne sais quoi, mais il est la porte. Le psaume 118, verset 20, annonçait déjà la porte du salut. C'est intéressant de voir que dans l'Ancien Testament, des centaines d'années avant, des fois même des milliers d'années, des choses avaient été annoncées et prophétisées. Il y aurait un jour quelque chose qui serait la porte du salut. Alors qu'elle n'existait pas, vous êtes d'accord avec moi? La porte du salut, telle que nous avons la révélation, n'existait pas. Mais elle a été annoncée. Plutôt, elle existait par rapport à Jésus. La porte du salut, elle est ouverte. Le message aussi pour nous, c'est que Dieu a autorité sur la porte. Et nous sommes là pour proclamer aux gens que la porte est ouverte. La Bible nous dit, il en sera des temps dans lesquels nous vivons, comme des temps de Noé. La porte de l'arche était ouverte. Je ne sais pas comment ils auraient fait si tout à coup 1000, 2000, 10 000 personnes auraient voulu rentrer dans l'arche. Mais au départ, il n'est pas dit que Dieu avait décidé qu'il y aurait 8 personnes de sauvées, point, pas un de plus. Il nous a dit que Noé était un prédicateur de la justice. Il annonçait la justice. Vous ne croyez pas que Dieu est juste? Si quelqu'un avait dit « je me repens, je crois à ce message de Noé, je veux aussi rentrer dans l'arche », il y aurait une place dans l'arche. Mais à un moment donné, la porte de l'arche a été fermée. Et vous savez qui l'a fermée? Il est dit Dieu. La Bible précise, Dieu ferma la porte. Ça devait être impressionnant aussi ça. Parce que c'était une vraie porte en bois que Noé avait construit de ses mains de menuisier, charpentier et tout ce qu'il était. Il y avait une porte. Noé et tout le monde étaient dans l'arche. Et la main de Dieu est venue fermer la porte. Ça devait être impressionnant ça. Pour Noé aussi de le réaliser. Peut-être pour les gens de dire comment elle se ferme maintenant cette porte mystérieusement. Nous pouvons encore maintenant avec nos procédés technologiques, nous avons des portails électriques à certaines maisons, des choses comme ça. On dit bon ça se ferme tout seul mais on sait que c'est pas tout seul, il y a un moteur derrière. Mais là, la main de Dieu ferme la porte et c'est terminé. Et ça c'est tragique. Parce que maintenant, c'est fini. Quand Dieu a décidé que la porte du salut serait terminée, fermée, elle sera fermée. Et il nous est dit que nous vivons les mêmes temps que ceux de Noé. Nous sommes des prédicateurs de la justice. Nous annonçons aux gens que la porte des cieux est ouverte, que Jésus est la porte, mais qu'à un moment donné, elle sera fermée. Et quand elle sera fermée, le temps de la grâce sera terminé aussi. Ça fait partie aussi de notre mission. Et quand la porte sera fermée, c'était d'ailleurs dans Genèse 7, 16, où l'Éternel ferma la porte sur lui, quand cette porte sera fermée, il y a autre chose qui va se passer. Le juge va s'approcher de la porte. La Bible nous dit que le juge va s'approcher de la porte. Il y a un mouvement dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pas immobile, rigide. C'est pas, il n'y a plus rien qui a été fait au ciel depuis 2000 ans puisque Jésus a tout accompli. Non, il y a beaucoup d'événements qui sont en train de se faire. Et maintenant, nous vivons le temps où le juge s'approche de la porte. Les choses deviennent sérieuses. Pas pour nous qui sommes déjà jugés en Jésus-Christ, mais pour les autres. Nous avons cette promesse de Dieu pour nous, que non seulement maintenant nous avons, nous connaissons la porte, nous pouvons expérimenter certaines choses, nous communiquons avec le ciel, mais maintenant nous voulons aussi exercer l'autorité pour permettre à d'autres d'entrer. Alors, la Bible nous parle, par exemple, dans Actes 14, au verset 27, que les apôtres se racontaient les uns aux autres comment Dieu avait ouvert aux nations la porte de la foi. C'est aussi une porte qui était fermée. Vous pourriez trouver, on pourrait en parler pendant des heures encore, tout ce qui parle dans la Bible des portes. La porte de la justice, la porte de l'espérance. Ici, il nous est dit que la porte de la foi a été ouverte aux nations. Nous vivons dans ce temps où Dieu a décidé d'ouvrir la porte de la foi aux nations. Pendant tout un moment, la porte était ouverte pour Israël. Après, Dieu a décidé que maintenant, les nations, tout le monde, pourrait avoir accès à la foi. À ce moment-là, les disciples ont commencé à agir pour que la parole soit répandue et pour qu'il y ait un accès efficace pour la parole. Nous pouvons voir ça dans 1 Corinthiens 16, au verset 9. C'est les exhortations de Paul, souvent à la fin de ses épîtres, quand il disait encore les dernières recommandations. Il disait une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Les adversaires sont nombreux. Alors il expliquait un peu à ses partenaires, veillez, demeurez fermes, priez pour moi. Nous voyons ça aussi dans Colossiens, au chapitre 4. Et au verset 3, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Moi, je crois que si Paul avait pris cette précaution d'écrire aux Colossiens qu'il était important de prier pour lui, pour qu'une porte s'ouvre, pour nous aussi, c'est une réalité. C'est notre responsabilité aussi de prier pour que des portes soient ouvertes. Sinon, ça sert à quoi que Dieu ait fait tout ça s'il n'y a pas d'accès? Imaginez, d'un côté, vous avez des gens qui meurent de faim, vous avez une porte, de l'autre côté, il y a des provisions en abondance. Mais si la porte s'ouvre pas, s'il n'y a pas de communication, mais c'est la réalité. Nous avons tous les trésors, la richesse, la parole, et d'un autre côté, il y a mon peuple qui périt par manque de connaissances. Il faut qu'il y ait des portes, il faut qu'il y ait des passages. La porte, c'est un passage. C'est une capacité que Dieu nous donne de passer d'un monde à l'autre. Du monde spirituel, nous amenons des réalités dans le monde matériel. Il y a un passage entre deux dimensions. La dimension de l'esprit et la dimension de notre réalité dans laquelle nous sommes. Il y a le monde physique et le monde spirituel. Les deux sont tout aussi réels. Et la porte, c'est le passage. C'est le passage vers une autre dimension. Nous dépassons par la réalité de la parole de Dieu toutes les fictions que certains ont pu imaginer, filmer, faire des films et des séries et des livres et toutes ces choses. Nous sommes dans la réalité de Dieu. Prions pour que ces choses se passent, mais pas seulement prions, aussi exerçons l'autorité. Exercer, ça veut dire que là, je ne demande plus à Dieu de le faire, mais je le fais en son nom. Et ça, c'est la troisième et dernière partie de ce que nous voulions voir ensemble, c'est que nous avons la capacité d'exercer l'autorité. Dans Matthieu 16, Pierre a une révélation très importante. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous vous rappelez de ça? Et c'est à ce moment-là qu'il y a un enseignement sur, on peut dire, sur les portes. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il y a maintenant une confrontation entre le royaume de Dieu et les portes du séjour des morts. Le séjour des morts a aussi ses portes, son siège d'autorité, l'endroit où s'exerce la puissance du séjour des morts. Et Jésus dit, l'église n'aura pas à craindre les portes du séjour des morts. Mais au contraire, c'est nous qui allons dominer ces portes du séjour des morts. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Nous connaissons la porte, mais avec la porte vient souvent aussi la clé. Si on n'a pas la clé, ça ne sert à rien. Mais il nous donne les clés du royaume des cieux. Quelles sont ces clés? Moi, j'ai ici, c'est simple. Les clés du royaume des cieux, deux points. Deux points, ça veut dire l'explication, c'est ce qui vient après. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà l'exercice de notre autorité aux portes. Nous lions et nous délions. Nous sommes dans des endroits où on entend tout le temps des paroles négatives, mauvaises, jamais rien ne se fera, Dieu n'agit pas, les gens ne veulent rien de Dieu. Nous sommes en train de lier. On parle mal de notre nation, dit les Français sont comme ci, les Français sont comme ça, et nous continuons de lier encore et encore. Et il n'y a rien qui se passe. Au contraire, si nous exerçons notre autorité et que nous permettons au royaume de Dieu de se manifester, si nous agissons contre les portes du séjour des morts, à ce moment-là, nous verrons des changements. Il y a plusieurs choses aussi, des références. Dans Job 17:16, il y avait une révélation des portes du séjour des morts. Il parlait du séjour des morts, là où on va quand notre corps s'arrête de fonctionner. Mais plus que ça, ça nous parle d'une réalité, d'un royaume des ténèbres et là où la mort a triomphé. Mais vous savez que les choses ont changé maintenant. Jésus y est allé. Et il a les clés. Il a pris les clés. Nous pouvons le lire ça dans Apocalypse 1, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il tient les clés. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Il donne les clés à Pierre, mais pas seulement à Pierre, comme j'avais déjà eu l'occasion de dire. Nous ne croyons pas à cette imagerie populaire de Saint-Pierre qui est à la porte du paradis. Ce n'est pas la réalité. Pierre, comme chaque être humain qui fait partie du royaume de Dieu, peut recevoir des clés, une révélation que par tes paroles tu lis, tu délies. Par tes paroles, tu agis, tu exerces l'autorité et tu permets l'action de Dieu dans ce monde. Donc, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il nous le donne. Dans Apocalypse 3:7 aussi, il est dit, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Ici, il nous est dit que c'était la clé de David. Elle appartenait à David dans le sens de la révélation. David était un précurseur, ancêtre de Christ et aussi une image de l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a beaucoup de David dans ce qui allait venir concernant Jésus parce qu'il y a eu des prophéties à ce sujet qu'il serait fils de David. Mais ici, la réalité, c'est qu'il tient les clés. Une petite illustration que j'ai trouvée intéressante, c'est que dans ce que nous considérons comme des fausses religions, dans les traditions humaines, il y a des fois des choses qui nous éclairent aussi sur la parole de Dieu. Par exemple, le dieu des portes chez les Romains s'appelait Janus. Quelqu'un a entendu parler de lui? Il est représenté avec deux visages, l'un tourné vers le passé, l'autre vers le futur. À Rome, son temple principal a la particularité d'avoir les portes ouvertes en temps de guerre et fermées en temps de paix. Alors, on peut dire que Janus est le gardien de la porte des enfers. C'est intéressant de voir ce qui est présent dans les mythologies, parce qu'il y a une part de réalité, et des fois une part de réalité de la parole de Dieu qui veut être détournée au profit d'idoles de toutes sortes. On le représente tenant d'une main une clé, de l'autre un bâton, pour marquer qu'il est le gardien des portes et qu'il préside au chemin. Ces statues marquent souvent de la main droite le nombre de 300 et de la main gauche celui de 65 pour exprimer la mesure de l'année selon le calendrier romain. Et un peu plus loin, il nous est dit, Ovide, le poète latin, il dit que Janus a un double visage parce qu'il exerce son pouvoir sur le ciel, sur la mer comme sur la terre. Il est aussi ancien que le monde, tout s'ouvre ou se ferme à sa volonté, lui seul gouverne la vaste étendue de l'univers, il préside aux portes du ciel, les garde de concert avec les heures, il observe en même temps l'Orient et l'Occident. Quel hold-up de la puissance de Dieu et de l'autorité de Jésus. Nous ne pouvons pas accepter ça et nous sommes obligés de rétablir la vérité. Ce n'est pas Janus qui a donné le mot janvier d'ailleurs, hein, puisqu'il ouvre l'année. Hein, voilà, c'était toute cette symbolique des portes, de l'ouverture et tout. Mais nous ne croyons pas à ce Dieu romain, ce n'est pas notre Dieu. Nous croyons à Jésus qui, lui, est celui qui a les clés de la vie. C'est lui qui préside la destinée des êtres humains. C'est lui qui gouverne. Donc nous avons un réel combat. Parce que vous voyez qu'il y a des êtres spirituels qui essayent de se personnifier sous forme de Janus ou d'autres pour contester l'autorité avec Dieu. Le même vieux combat du diable continue encore, où il essaie de détourner les gens et il leur propose une réalité, on peut dire, alternative, différente. Nous avons dans la parole de Dieu des gens qui n'étaient pas parfaits, mais qui étaient ce que nous appelons des types de Christ. Par exemple, Samson. Samson a une force extraordinaire de la puissance venue de l'onction et de la puissance de Dieu qui était sur lui. Et nous savons que sa vie n'était loin d'être parfaite, mais il a accompli quelque chose qui était de nature à nous identifier à Christ le libérateur. Par exemple, dans Juges 16, on dit aux gens de Gaza, « Samson est arrivé ici. » Ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit en disant, « Au point du jour, nous le tuerons. » Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Ça, c'est une image d'une action de libération qu'il a fait. Au lieu que ce soit lui qui soit pris au piège et tué, il a pris une initiative, on peut dire à minuit, l'heure la plus sombre, hein, c'est comme ça qu'on le symbolise, il arrache la porte. Ça nous parle ici exactement de ce que nous sommes en train de voir, le séjour des morts. Jésus, à l'heure la pire de sa vie, lorsqu'il était crucifié, lorsque Dieu l'a abandonné, c'est là qu'il est allé au séjour des morts, qu'il a pris les clés et qu'il a montré la victoire, de la même façon que Samson l'avait fait. Et le Seigneur avait aussi à un moment donné l'illustration de Ésaïe, dans Ésaïe plutôt, au chapitre 45, lorsqu'il a choisi Cyrus pour qu'il fasse quoi ? Terrasser des nations devant lui, relâcher la ceinture des rois, ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins tortueux, je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer. Ça montre l'exercice d'une autorité, d'une puissance, des fois une nation contre une autre, où il y a une action de la part de Dieu. Des fois, les guerres ne sont pas simplement des guerres humaines où des gens veulent prendre les possessions des autres. Mais il y a aussi un monde spirituel qui est présent et des choses qui agissent dans le sens que l'un peut être un instrument de Dieu et l'autre peut être un instrument du diable. C'est arrivé. Et donc, nous avons cette action au milieu de ce combat spirituel. Alors, qui est celui qui a l'autorité sur les portes? C'est celui qui détient les clés. Parce que sinon, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte si vous n'avez pas la clé. Mais encore une illustration pour montrer vraiment le triomphe de Dieu sur nos prisons. Vous vous rappelez que Jésus a dit dans Luc 4, 18, « L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la liberté, la délivrance. » Et il l'a démontré dans Acte 5, lorsque Pierre était prisonnier. Il nous est dit « Un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit. » Alors il leur dit « Voilà ce qu'il devait faire. » Il a ouvert la porte. Dans Acte 5, 23, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous avons trouvé personne dedans. Donc il y a eu les deux événements. D'abord quand les apôtres ont été mis en prison, et ensuite quand Pierre était seul en prison, vous savez, juste le lendemain, il voulait l'exécuter. Et chaque fois, un ange est venu délivrer et ouvrir ses portes. Et dans Acte 16 aussi, pour l'apôtre Paul, il nous est dit « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. » Les fondements de nos prisons sont ébranlés. En un instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je voudrais vous laisser, pour terminer, avec cette pensée que nous n'avons pas besoin de croire pour une évolution lente et à force de persévérance, au bout de nombreuses années, nous arriverons finalement à nous libérer ça et là de quelques chaînes. Ce n'est pas l'idée de Dieu. C'est qu'en un instant a eu lieu une délivrance, une transformation radicale dans le monde spirituel. Et il nous est dit, les fondements des prisons étaient ébranlés. Le royaume des ténèbres a été secoué comme d'une façon que nous ne pouvons pas imaginer lorsque Jésus est ressuscité. Ça a fait du remous, c'est le moins qu'on puisse dire. Le geôlier s'est réveillé et lorsqu'il a vu toutes les portes de la prison ouvertes, il pensait qu'une seule chose, c'est de se prendre la vie. Mais donc pensez à ça et je vous laisse le dernier verset en psaume 107, verset 16. Il a brisé les portes d'airain et il a rompu les verrous de fer. Vous voyez, il ne dit pas une vieille porte en bois vermoulu. Bon, si vous cognez plusieurs fois contre, vous allez finir par la faire se casser. Mais ici, il nous est dit des portes d'airain, des portes de bronze si vous préférez. Et les verrous étaient en fer. C'est du costaud, mais ce n'est pas trop fort pour que Dieu ne puisse rien faire. Alors, à nous d'agir maintenant. Prions pour des portes ouvertes. Mais aussi commander, exercer l'autorité, prophétiser. Sinon, qui le fera si nous ne le faisons pas? C'est notre travail. Dieu nous a dit de le faire. On a vu dans Matthieu 28, « Toute autorité m'a été donnée, allez, faites-le. » J'ai trouvé ce verset de Zacharie 11, hein, « Liban, ouvre tes portes. » On ne va pas maintenant parler du Liban spécialement, mais je me suis dit, quel intérêt de parler à un pays? C'est parce que prophétiquement, quelque chose se passe à ce moment-là. Donc, là où il y a Liban, vous pouvez mettre n'importe quoi. La porte du cœur d'une personne, une situation particulière. Et parlez-lui, dites Liban, dites montagne, dites problème, dites ouvre tes portes. Qu'il y ait une ouverture. Nous avons les clés, nous les avons reçues ce matin, nous avons encore repassé toutes ces paroles. Eh bien, à nous d'agir maintenant. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.